Un jour où je traînais sur Twitter sans rien y chercher de particulier, je suis tombé sur un tweet très énervé de Marion Coville. Marion, je la connais pas vraiment, on s'est juste croisé une fois il y a des années, mais je la suis parce qu'elle fait partie d'une petite tribu de jeunes chercheurs sur le numérique qui m'intéresse. Elle arrive à mêler dans son travail l'intérêt pour le féminisme, le jeu vidéo, la programmation, le corps, etc. Et je la suis aussi parce qu'elle raconte sa vie dans Twitter avec plein de photos et sans jamais lui avoir parlé, je sais où elle vit. Je connais son appartement, ses chats, son amour du tricot, ses moments de joie et ses chutes. Et ça me la rend très familière. Et donc, un jour, elle a fait une série de tweets très énervés. La cible de son agacement, c'était un article du Monde diplomatique qui faisait une critique des relations humaines à l'ère numérique sur le mode « les geeks sont des autistes, ce sont eux qui ont fabriqué les plateformes sur lesquelles nous communiquons, nous vivons donc dans un monde d'autistes, nous devenons asociaux ». Marion avait l'air très agacée par ce raisonnement, en quelques tweets elle donnait des arguments, des références, des expériences, et j'ai appris à cette occasion qu'elle était autiste, ça je le savais pas. Ni une ni deux, je lui ai envoyé un message en lui demandant si elle voulait bien venir m'expliquer tout ça. Parce que je crois que j'y ai moi-même souvent succombé à ce lieu commun du geek autiste et j'aimerais qu'elle m'explique pourquoi je me suis trompé. C'est donc comme ça que notre discussion en ligne a commencé, mais elle nous a emmenés beaucoup plus loin que je le pensais au départ. Dans les messages qu'elle m'a écrits avant qu'on se voie, Marion s'est mise à raconter sa vie. Elle a écrit des trucs comme « Parfois j'ai l'impression d'être cette espèce de stéréotype sur pattes qui serait passé par tous les mauvais exemples des usages d'Internet, mon éducation, mes sociabilités, mes amours, mon identité et même mon travail, j'ai tout construit grâce à Internet. » Voilà le genre de choses qu'elle m'a écrit. Ce stéréotype du geek autiste, on le connaît tous. Et on l'a croisé encore tout récemment dans Don't Look Up, le film Netflix d'Adam McKay qui a cartonné cet hiver et qui met en scène un patron de la tech aux capacités communicationnelles, pour le dire gentiment, un peu étrange.
Le code a changé.
Bonjour à tous. Le travail de toute ma vie, depuis toujours, a été motivé par l'indicible besoin d'avoir un ami fidèle qui me comprendrait et m'apaiserait et... Au bout du compte, toutes ces années de travail ont fini par donner naissance à Bash 14.3, un téléphone qui ne fait qu'un avec chacun de vos sentiments les plus profonds et avec vos désirs, sans que vous ayez à dire le moindre petit mot.
Note pour plus tard, donc le cup, il faudra que j'en parle à Marion. Et donc, je me suis dit que j'avais besoin de faire deux épisodes. Que Marion démonte dans le premier ce lieu commun qui associe la geekitude à l'autisme. Mais aussi qu'elle me raconte dans le second sa vie de jeune fille autiste qui s'est construite grâce à Internet, comme elle me l'a écrit. J'ai besoin des deux parce que je suis sûr qu'ils vont se répondre, mais surtout parce que je suis certain que c'est en allant dans le biographique que paradoxalement on touchera à ce qui est le plus commun dans l'expérience numérique. Commun aux autistes et à toutes les personnes non autistes qui sont derrière leurs écrans. Mais pour en arriver là, il faut repartir du début. Et le début, c'est ce texte du Monde diplomatique. Son titre, « La société des asociaux », il est signé par Pierre Rimbert, un des directeurs du Diplo. J'en relis juste quelques passages avant qu'on se mette à discuter avec Marion. « La sous-culture geek, écrit Rimbert, teintée d'introversion et d'une masculinité frustrée endémique sur les forums de jeux vidéo, valorise l'absence d'empathie. » Elle révère, poursuit Rimbert, un panthéon peuplé de dieux atteints d'une forme légère d'autisme, tels les milliardaires libertariens Elon Musk, patron de Tesla, Peter Thiel, cofondateur de PayPal, et bien d'autres non officiellement diagnostiqués. Au point qu'un journaliste du magazine Wired, alors bible mensuelle de la Silicon Valley, rebaptisa en 2001 le syndrome d'Asperger, syndrome du geek. Alors, plus loin, le journaliste du Diplo écrit aussi contre l'ambiguïté de l'implicite et des sous-entendus qui tissent les conversations de face à face, la vie numérique offre au geek qui la développait la brutale, autant que rassurante rationalité des indicateurs chiffrés où l'émotion occupe la portion congrue. Puis vient le cœur de la thèse de Rimbert. Je cite. Que des réseaux sociaux pensés par des asociaux en viennent à structurer les relations en ligne d'une moitié des habitants de la planète reflète en creux la mutilation des rapports humains, source d'une frustration insondable au sein d'un monde parcellisé, pressé, peureux. Voilà. Et donc, quand on s'est retrouvés enfin tous les deux dans un studio, pour entrer dans le vif du sujet, j'ai demandé à Marion ce qui l'énervait là-dedans.
tout. Y a déjà la définition de l'autisme, enfin la représentation de l'autisme en utilisant le stéréotype du geek, qui est une confusion et un stéréotype qui a déjà une bonne vingtaine d'années, mais qui perdure et qui a beaucoup d'effets en fait sur la représentation des personnes autistes et sur la représentation de ce que c'est que l'autisme. Et de manière plus générale aussi, le fait de centrer la critique justement sur des personnes qui seraient prétendument autistes, bah on oublie aussi toute la dimension systémique du capitalisme, des plateformes, de leurs modèles socio-économiques, et on réduit ça à une question d'individus qui n'auraient pas d'empathie, qui préfèrent les chiffres et les machines aux relations humaines. C'est à la fois condescendant, con et violent en fait. Bah quand toi-même en fait t'es concerné par l'autisme en fait, c'est pas nouveau, c'est pas étonnant, mais de le voir en 2022 écrit de cette manière-là encore, c'est désespérant quand même.
Ok, la critique est féroce et elle nécessite un peu de développement. On peut pas s'en tenir là, ce serait pas très amène à l'égard du camarade du monde diplomatique contre lequel j'ai absolument rien d'ailleurs. Pour commencer, Marion a l'air de dire que le poncif est vieux. J'aimerais donc savoir d'où il vient, comment s'est établi historiquement ce parallèle entre l'autisme et le monde informatique.
Il faut déjà comprendre la masculinisation de la figure de l'autiste. Puisque c'est vrai que l'autisme, on présente ça généralement comme un trouble masculin. Les premières descriptions ont été faites à partir de garçons autistes. La plupart de la littérature prend des cohortes de garçons pour décrire justement les symptômes de l'autisme. Et aujourd'hui, le ratio de sexe du diagnostic qu'on présente est généralement de 4 garçons pour une fille.
Ah ouais.
Donc il y a vraiment une représentation masculine de l'autisme qui s'entretient aussi parce que les garçons sont observés. Donc la description de l'autisme se fait en observant les garçons. Et même d'un point de vue de l'éducation, il y a plusieurs chercheuses féministes qui ont bossé là-dessus et qui montrent que certains comportements chez une fille vont simplement être interprétés comme de la discrétion, du calme. Donc des choses finalement pas si mauvaise que ça, donc qui n'inquiète pas, alors que chez un garçon, on va suspecter précisément un trouble, donc on va plus facilement aussi aller consulter. Donc il y a déjà cette première passe, et puis il y a la deuxième phase, on va dire, dans les années 90, avec la redécouverte et l'inclusion dans le DSM-4 de ce qu'on appelle le syndrome d'Asperger, qui, cette fois, va décrire... on parle généralement de formes d'autisme légère. Mais ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que l'inclusion de nouvelles formes d'autisme fait que on diagnostique beaucoup plus de personnes et que ça va être cadré à la fois d'un point de vue scientifique et d'un point de vue médiatique, un peu comme s'il y avait une explosion, une épidémie d'autisme. Non, c'est simplement que le diagnostic est plus ouvert et prend en compte plus de cas.
Donc, si je résume, d'une part, l'autisme a été constitué en pathologie masculine. D'autre part, dans les années 90, la reconnaissance par le DSM, c'est-à-dire le manuel de la Société de psychiatrie américaine régulièrement mis à jour et qui fait référence en matière de troubles mentaux, donc la reconnaissance par le DSM-4 du syndrome d'Asperger comme une forme de pathologie autistique, fait augmenter considérablement le nombre de cas. Alors, je ne vais pas prendre le risque de distinguer l'autisme du syndrome d'Asperger, ça dépasse complètement mes compétences et en plus j'ai l'impression que ça ne fait pas consensus. Je crois que c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on parle de spectre autistique comme une sorte de palette dont le syndrome d'Asperger occuperait un espace. La question que je me pose, c'est quelles sont les conséquences de cette extension du domaine de l'autisme dans les années 90 ?
C'est vraiment l'entrée, en fait, d'une figure médiatique de l'autisme. Parce que dans les années 90, on va avoir le film Rain Man qui va sortir.
Rain Man, bien sûr. 1988. Je l'ai revu récemment, d'ailleurs, et la scène finale m'a encore tiré des larmes.
Tu sais, le docteur Brunner t'aime vraiment beaucoup et à mon avis, il va sûrement vouloir te reprendre avec lui. Tu vois ?
Oui.
Tu te souviens, quand j'ai dit que je trouvais ça super d'être sur les routes avec toi, je le pensais. On s'est rejoint. Je suis content que tu sois mon frère.
Je suis un excellent conducteur.
Oui, tu l'es.
Rain Man, donc, mais Marion continue son énumération.
Temple Grandin va commencer aussi à écrire des livres, à être médiatisé.
Alors là, j'avoue, je n'avais jamais entendu parler de Temple Grandin. J'ai regardé 2-3 trucs sur elle. Personnage fascinant. Prof à l'Université du Colorado, conceptrice d'équipements pour le bétail, auteur des premiers livres témoignant de la vie et du mode de pensée d'une autiste à partir de la fin des années 80. C'est drôle d'ailleurs, je suis tombé sur une conférence TED de 2010 dans laquelle elle n'arrête pas de faire des blagues sur le fait qu'il y a sans doute plein d'autistes dans cette salle remplie de geeks qui est en train de l'écouter.
L'autisme est un très grand continuum qui va de très grave, l'enfant ne communique pas, jusqu'à de brillants scientifiques et ingénieurs. Je me sens vraiment à ma place ici, car il y a beaucoup d'autisme génétique.
Donc, si je reprends le fil du raisonnement de Marion, à la fin des années 80, apparaissent ces figures médiatiques.
On est au moment aussi où il y a une popularisation et une massification des usages d'Internet. Et à ce moment-là, en fait, on va vraiment commencer à avoir un rapprochement entre, d'un côté, le stéréotype du geek, donc qui serait ce garçon blanc qui reste plutôt cloîtré chez lui, qui est passionné d'informatique, qui préfère les machines plutôt aux personnes. Et de l'autre côté, le stéréotype de la personne autiste, qui est introvertie, parle peu, voire pas, va avoir des intérêts spécifiques très forts pour certains objets ou certaines activités. Et donc, on va commencer à avoir une confusion entre ces deux figures, avec l'idée que finalement, les geeks seraient autistes, et que ce qui caractériserait les autistes, c'est le fait de ne pas aimer les gens, ne pas parler aux gens, et préférer les machines et coder tout seul toute la nuit.
Si ce rapprochement commence à exister dans les esprits, il est vraiment coulé dans le marbre par un article qui fait date. C'est celui que cite Pierre Rimbert dans son papier du Monde Diplo. Cet article, il est publié en décembre 2001 dans Wired par un journaliste du nom de Steve Silberman et il est intitulé « Le syndrome geek ». Alors, il faut avoir en tête ce qu'était Wired à l'époque. C'était LE magazine de la Silicon Valley, celui où se bâtissait la culture Internet, faite de ce mélange si difficile à comprendre pour nous, les résidus de la contre-culture californienne, faite de sécession communautariste et d'extension de soi par les drogues, qui se mêle par ailleurs à un esprit d'entreprise parfaitement capitaliste. Bref, en 2001, tout le monde lit Wired pour essayer de comprendre ce nouveau monde technologique qui est en train d'apparaître. Et Steve Silberman, c'est un des grands journalistes de Wired, et il incarne d'ailleurs parfaitement cette nouvelle culture. Il s'est formé auprès des auteurs de la Beat Generation, il a même été l'assistant d'Allen Ginsberg dans une université du Colorado, et puis il s'est mis à écrire sur la tech. Et donc, en décembre 2001, il publie un long papier dans lequel il explique que autisme et syndrome d'Asperger sont hyper présents parmi les enfants de la Silicon Valley. Avec l'idée donc que ces deux pathologies sont LE syndrome du geek. Ma question, pourquoi cette association trouve-t-elle tout de suite un écho ?
Silberman, en fait, quand il médiatise ça, il n'est pas tout seul. C'est aussi parce qu'on a, avant lui, des chercheurs qui ont exploré, en fait, ces questions-là, à travers des théories très genrées du cerveau, donc avec cette idée, pour la faire vite, c'est la théorie du cerveau hyper masculin de Simon Baron Cohen, l'idée que les hommes auraient un cerveau systémique ou systématique, que les femmes auraient un cerveau empathique et que les personnes autistes auraient un cerveau hyper systématisant et donc auraient un cerveau hyper masculin. C'est lié à une représentation hyper genrée des activités, puisque ce qui est défini par Simon Baron Cohen comme des activités systématiques, c'est l'intérêt pour la mécanique, pour l'informatique, pour les ordinateurs. Par exemple, le tricot ou la lecture de diagrammes de tricot ne fait pas partie des activités systématiques envisagées par Simon Baron Cohen. Et donc, il développe une seconde théorie, avec l'idée finalement que qui se ressemble s'assemble, et que si on a supposément des épidémies d'autisme dans la Silicon Valley, c'est parce qu'on a une forte concentration de geeks hommes et femmes, et que les femmes geeks auraient aussi un cerveau hyper masculin, et que quand toutes ces personnes s'accouplent, étant donné que c'est deux cerveaux hyper masculins qui s'accouplent ensemble, ça donne un autiste.
Voilà comment Silberman impose le lien entre autisme et geekitude.
Le code a changé.
Alors, cette idée perdure jusqu'à aujourd'hui. Au point que Bill Gates, Mark Zuckerberg et d'autres cadors du numérique sont, à un moment ou à un autre, toujours désignés comme autistes. Pour Zuckerberg, par exemple, on trouve des tonnes d'articles qui disent qu'il est Asperger, alors que, quand j'avais interrogé dans un épisode précédent son biographe, Julien Lebot, à ce propos, quand je lui avais demandé s'il y avait quelque chose donc de pathologique dans le génie du créateur de Facebook, il m'avait répondu ça.
C'est une question difficile, il n'est pas rare, en tout cas il y a eu pas mal de commentateurs ou de gens qui en ont fait presque quelqu'un qui était malade, enfin il y avait presque de la pathologie dans son génie en un certain sens, je ne crois pas du tout. C'est pas à mon avis le sociopathe qu'on en a fait, c'est quelqu'un en revanche qui a une capacité à se projeter dans l'abstraction, mais comme on pourrait le dire par ailleurs par exemple d'un philosophe. Pour autant, je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas coupé du monde parce qu'il y aurait chez lui un syndrome, une maladie qui l'enfermerait dans des lignes de code et dans un fonctionnement binaire.
Parce que ça a couru pendant un temps dans la Silicon Valley, l'idée qu'il était Asperger, par exemple.
Exactement.
Et ça ?
J'y crois pas du tout. Alors, c'est pareil, on n'a pas de source ultime par rapport à tout ça. Mais je pense que c'est, encore une fois, une vision un peu courte et étriquée d'un personnage qui est beaucoup plus complexe que ça.
J'en reviens à Don't Look Up, le film d'Adam McKay que tout le monde donc a vu à Noël. Il met en scène un patron de la tech à qui sont associés tous les traits stéréotypés de l'autisme. Incapable de communiquer avec les enfants, doué de peu d'empathie, etc., etc.
Vous m'avez traité de businessman ? Vous croyez me connaître ? Bâche ! À plus de 40 millions d'informations sur vous et sur chacune des décisions que vous prenez depuis 1994, docteur. Et je sais quand vous avez des polypes au côlon des mois avant votre médecin. Mais le plus important dans tout ça, c'est que je sais qui vous êtes. Mes algorithmes ont déterminé 8 profils types fondamentaux de consommateurs.
Quand j'ai soumis à Marion ce dernier exemple, celui de Don't Look Up, elle a eu une réponse intéressante.
Ouais, le problème en fait, c'est que c'est toujours à demi-mot. Dans la plupart des représentations de geeks un peu autistes au cinéma ou dans les séries, on ne te dit jamais qu'ils sont autistes. On te le fait toujours penser, et quand les journalistes vont interviewer les scénaristes, les réalisateurs, ils vont dire « Oh non, 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 j'ai absolument pas voulu faire un personnage d'autiste ». Donc en plus, la critique, elle est difficile aussi parce que c'est jamais assumé et c'est jamais dit clairement. Et pourtant, bon, la représentation, au final, elle est là, et la réception du côté du public, elle est là aussi.
Ok, mais ce qui est frappant, c'est que cette association entre autisme et geek va être utilisée comme le levier d'une critique du numérique. Ce sont les geeks qui fabriquent nos technologies, les geeks sont des autistes, donc nos technologies sont autistes. C'est une critique très puissante adressée notamment aux réseaux sociaux. Ils nous rendraient asociaux, ils nous rendraient autistes. L'article du Monde Diplo qui a tant énervé Marion en est la parfaite illustration. Et donc j'aimerais savoir comment elle analyse ce raisonnement.
Bah, en fait, il arrive quand même à faire un déterminisme technique qui se mord la queue. On part de l'idée que les autistes sont des machines et réfléchissent comme des machines, donc produisent des mondes numériques qui ne s'y est qu'aux machines, et donc en utilisant ces mondes numériques-là, on viendrait aussi des machines. C'est vraiment le double déterminisme. C'est fort. Enfin, on peut au moins lui reconnaître ça. C'est fort.
Là, évidemment, Marion est un peu ironique, hein, parce que qualifier ce raisonnement de double déterminisme, c'est une autre manière de dire qu'il établit des liens de causalité très mécaniques, pas très finaux. Ce qui est assez marrant, si on continue de faire l'histoire de cette association geek-autisme, c'est que Silberman, l'auteur du fameux article de Wired, qui a posé les bases de cette association, et donc de tous les usages qui en sont faits jusqu'à aujourd'hui, eh ben, il est un peu revenu sur son article. Parce qu'il a fouillé cette question de l'autisme en écrivant, en 2015, un livre qui s'appelle Neurotribu. Et je demande à Marion de raconter ce que Silberman a fait dans ce livre.
Aux États-Unis, on a vraiment des mouvements autour de l'autisme, qui se sont formés au fur et à mesure, qu'on appelle des mouvements de self-advocacy, donc d'auto-représentation, des mouvements de personnes autistes pour prendre la parole et revendiquer des droits depuis leur position d'autiste. Et en fait, c'est à ça que Silberman s'est intéressé, parce qu'il y a vraiment eu une production de savoir par des communautés autistes, des productions conceptuelles, notamment avec le terme de neurodiversité, qui est en fait une tentative de sortir des approches pathologiques et pathologisantes de l'autisme. Et c'est à ça, en fait, que Silberman s'est intéressé, en essayant de montrer un petit peu la complexité de l'expérience au monde quand on est autiste.
Et en quoi ça nuance l'espèce d'association un peu abrupte et déterministe qu'il avait faite au départ entre autisme et geek ?
ça la nuance qu'à moitié. Il humanise la figure des autistes, mais il conserve quand même une certaine représentation de l'autiste comme un garçon et qui est un petit génie des sciences.
Intéressant. Je comprends mieux pourquoi Neurotribu n'a pas changé grand-chose à l'histoire. Et à part quelques articles scientifiques, à part quelques témoignages d'autistes publiés, pas grand-chose depuis 20 ans n'est venu modifier cette équation. Les génies du code sont souvent plus ou moins autistes, et les autistes ont des garçons asociaux qui, quand ils sont bons en quelque chose, sont bons en maths et en programmation. Mais comme souvent, les images, même fausses, produisent des effets. Et j'aimerais que Marion me détaille ce que produit comme effet cette association.
En fait, elle produit plusieurs choses. Déjà, elle produit des œillères sur ce que c'est que l'autisme. Quand on réduit l'autisme à la figure du geek, on va en gros dire qu'une personne autiste, c'est une personne qui n'a pas d'habileté sociale, n'a pas d'appétence pour les relations sociales, n'a pas d'empathie, est extrêmement rationnelle et est passionnée par l'informatique, par les chiffres. Alors déjà, il y a énormément de choses qui sont oubliées là-dedans, puisque l'autisme, ça va être aussi lié à la cognition, à la manière dont on intègre les informations, ça va être lié au langage, à la sensorialité. Ça, je pense que c'est l'un des plus gros problèmes, à mon sens, de ce stéréotype-là, c'est qu'on oublie complètement la dimension sensorielle de l'autisme.
L'audition en particulier, ou pas forcément que l'audition ?
Tout. Le tactile, l'audition, le goût, l'odorat, la manière dont on ressent ou pas son corps, la manière dont le monde en fait nous traverse, tout ça en fait on l'oublie dans cette figure-là, tout simplement parce que le geek n'a pas de corps, puisqu'il est devant son ordinateur, son corps a disparu.
Ok, premier effet donc de cette association, la réduction de la représentation qu'on se fait de l'autisme. C'est très intéressant ce que dit Marion au sujet du corps et du caractère sensoriel de tout ça, faudra qu'on y revienne. Je compte bien qu'on en discute quand Marion racontera sa vie. Mais bon, en attendant, elle continue de lister les effets produits par cette association.
Ça renforce des discours aussi qui ont tendance à mépriser, voire à suspecter les femmes autistes d'avoir un faux diagnostic ou d'être de fausses autistes parce que leurs intérêts spécifiques ne seraient pas assez scientifiques, ne seraient pas assez sérieux, ne seraient pas assez dans les cadres d'une masculinité geek. Par exemple, on va trouver beaucoup de petites filles qui vont avoir un intérêt spécifique pour les animaux, pour les chevaux, pour les chats, pour la nutrition, enfin des choses qui socialement sont plus acceptables parfois, finalement elle ne serait pas autiste parce que c'est pas un intérêt spécifique. Ça va avoir aussi un effet sur la dimension de classe du diagnostic de l'autisme.
Ah bon ?
Ben, quand tu lis que tel enfant est un petit génie, qu'il a avalé toute la bibliothèque de son père sur l'astronomie, moi je veux bien, mais tu les trouves où les bouquins ? Il y a quand même un accès à la culture scientifique, technique et industrielle qui n'est pas interrogé. En gros, dès lors que tu n'es pas un garçon blanc qui appartient plutôt à une classe moyenne ou supérieure, en fait, bah, tu t'écartes du stéréotype. Donc, de base, tu pars avec une difficulté supplémentaire à faire reconnaître ton expérience et à aller jusqu'au diagnostic.
Alors ça, c'est passionnant. En fait, associer l'autisme à la geekitude n'est pas seulement une manière de pathologiser les geeks, et donc une manière de les dévaluer. Ça a aussi des conséquences pour les personnes atteintes d'autisme. Conséquences en termes de classe et de genre notamment. Alors ça, je n'avais absolument pas imaginé que ça pouvait aller jusque-là. Mais là, il faut prendre en considération ce qui s'est passé ces dernières années. La figure du geek a changé. Le geek a pris sa revanche. Il est devenu important, il est devenu symbole de réussite, il est même devenu sexy. Et pour moi d'ailleurs, ce qui a marqué ce changement, c'est le nouveau Q que rencontre James Bond dans Skyfall. Le film est sorti en 2012, je crois. Avant, Q, on s'en souvient, hein, c'était un vieux bricolo, un vieil ingénieur plutôt, quoi, à la fois maladroit et génial, qui imaginait des gadgets de dingue. Maintenant, Q, c'est un jeune geek.
Je suis votre nouveau quartier maître.
Vous plaisantez, j'espère.
Parce que je ne porte pas de blouse.
Parce que vous êtes encore boutonneux.
La question de mon épiderme n'est guère pertinente.
Celle de vos compétences l'est.
J'ose arguer que je puis faire plus de dégâts avec mon ordinateur portable et en pyjama avant ma première tasse de Earl Grey que vous en un an sur le terrain.
Oh, alors à quoi je sers, moi ?
De temps en temps, il faut bien appuyer sur la gâchette.
Ou pas. Difficile d'en juger quand on est en pyjama. Q.
Jamais le vieux Q n'aurait osé s'adresser comme ça à James Bond. Et de fait, le rôle de ce jeune Q dans Skyfall est largement plus décisif que celui de son prédécesseur. Et avec cette revalorisation du geek pas très rompu aux codes sociaux, hein, c'est opéré conjointement une valorisation de l'autiste super utile pour les boîtes de la tech. Il est capable de coder des nuits entières, il arrive à faire ce que les autres n'arrivent pas à faire, au point que les autistes sont, paraît-il, très recherchés aujourd'hui dans la Silicon Valley, qui, vraisemblablement, recrute chaque année de plus en plus d'Asperger. Et je demande à Marion ce qu'elle pense de tout ça.
En fait, dans les communautés anglophones, on appelle ça le mythe du shiny Aspie. Aspie étant la contraction de Asperger.
Ah, je connaissais pas du tout. Et qu'est-ce que ça désigne plus précisément ?
Le shiny Aspie, c'est le petit génie qui réalise des prouesses, généralement informatiques, et dont l'autisme se résumerait à être un peu maladroit socialement, et qui surtout s'articulerait avec un haut potentiel intellectuel. C'est une image qui est tout autant dommageable pour les personnes qu'elle valorise que pour celles qu'elle laisse dans l'ombre. Comme ça, tout le monde est content. Déjà, c'est dommageable pour les personnes autistes qui se retrouvent dans le monde du travail, parce que généralement, ça va donner des discours managériaux qui expliquent aux entreprises qu'il faut embaucher des autistes. Pourquoi ? Parce qu'ils sont loyaux, organisés, respectueux, mais surtout parce que, grâce à leurs intérêts spécifiques, ce sont des gens passionnés qui travaillent sans compter et surtout sans se plaindre. Donc c'est vraiment un discours qui va déshumaniser les personnes autistes en nous présentant comme des espèces de machines de guerre ou de supercalculateurs légèrement humains. Et ça laisse surtout entendre qu'on n'a pas de besoins et encore moins de besoins spécifiques.
Ok, intéressant. Mais j'aimerais bien que Marion m'explique ce que sont ces besoins spécifiques dont elle parle.
Travailler et être autiste, c'est se battre et s'épuiser pour obtenir une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, puis se battre encore pour obtenir des aménagements, puis se battre encore pour les faire appliquer. C'est tout simplement se battre pour essayer de comprendre les codes sociaux, des entretiens, des lettres de motivation, des CV, etc. C'est se retrouver en arrêt de travail pour épuisement, parce qu'on dépense beaucoup d'énergie à camoufler et à compenser pour essayer de rentrer dans les cadres de l'entreprise. C'est passer nos journées de travail à entendre des phrases de la part de collègues comme « fais pas ton autiste » ou encore « non mais bon, lui ça va, il s'énerve, mais il est pas autiste, donc on peut quand même travailler avec lui ». C'est faire un très bon travail, mais à côté de ça, souffrir d'une mauvaise réputation et d'isolement.
D'accord, c'est dur, sans doute à un point que je n'imagine même pas. Mais Marion avait laissé entendre que cette image euphorique de l'autiste qui cartonne dans son boulot de geek était dommageable au-delà même des geeks. Et j'aimerais bien savoir ce qu'elle voulait dire par là.
C'est aussi extrêmement dommageable parce que, au final, ça dessine l'image d'un autiste acceptable parce qu'il n'a pas l'air autiste et qu'il n'a pas l'air handicapé. Ça dessine en creux la figure des autistes qui ne sont toujours pas acceptables et ne sont toujours pas désirables. Celles et ceux qui n'ont pas l'usage de la parole, qui n'ont pas pu suivre l'école ou suivre des études parce que les institutions scolaires n'étaient pas adaptées, donc n'étaient pas capables de les accueillir dans des bonnes conditions. Celles et ceux dont les comportements ou les postures n'ont pas pu être suffisamment réprimés ou normalisés et donc qui sont toujours visibles et considérés comme bizarres par les autres. Donc en fait, ça invisibilise complètement la grande majorité de l'expérience autiste et de ce que c'est que d'être autiste, tout en présentant une petite portion des personnes autistes à travers un mythe qui en fait n'existe pas vraiment.
Je comprends. Même quand elle est hyper positivée sur le mode « ces autistes sont géniaux, ils peuvent faire tant de bien à nos startups », eh ben, l'association entre geeks et autistes finit par ne pas être bénéfique aux autistes. Et en plus, cette hyper-valorisation de l'autisme est à double tranchant parce qu'elle peut nourrir la critique consistant à dire « eh ben, le monde de la tech est fabriqué par des autistes, c'est donc un monde asocial ». Mais justement, qu'est-ce qu'on rate quand on énonce la critique de cette manière-là ?
On s'intéresse pas au monde dans lequel sont conçues ces technologies, on s'intéresse pas à leur modèle économique, tout ça en fait ça disparaît. Je pense que c'est ça qui m'énerve, c'est-à-dire que je suis pas à fond technophile, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème avec les technologies aujourd'hui, mais je dis plutôt qu'au contraire en fait les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui sont suffisamment complexes pour qu'on les prenne au sérieux et qu'on se donne vraiment les moyens d'aller les explorer et de reconnaître en fait toute la complexité des technologies, de nos usages et des problèmes que ça peut poser, puisque tant qu'on reste sur une critique de c'est les autistes qui ont construit les réseaux sociaux et si on les utilise, on va tous devenir autistes, on ne fait pas avancer grand-chose et justement, on affaiblit aussi la critique des plateformes telles qu'elles sont conçues aujourd'hui.
Ok. Mais là, je suis obligé d'objecter quelque chose à Marion. Il y a quelques années, j'étais tombé sur des blogs tenus par des gens se décrivant comme autistes. Et beaucoup d'entre eux racontaient à quel point ils avaient profité de l'informatique et d'Internet. Je me souviens que certains racontaient comment l'arrivée du mail dans leur travail leur avait permis de ne plus utiliser le téléphone, que ça avait réglé toute une série de problèmes dans leurs interactions, d'autres racontaient à peu près la même chose avec les réseaux sociaux. Bref, ces personnes autistes étaient plus à l'aise, d'après ce qu'elles disaient, dans le monde numérique que dans le monde physique. Alors, mon objection à Marion est la suivante. S'il est vrai que les autistes, ou tout au moins une partie d'entre eux, sont mieux dans ce monde numérique, que répondre à ceux qui disent que les réseaux sociaux sont une sociabilité réduite, une sociabilité asociale, mutilée, comme le dit le journaliste du Monde Diplo ?
Ça nous apparaît comme paradoxal, parce que on part du principe que l'autisme, c'est une déficience, voire c'est une pathologie. Donc, quand des personnes autistes disent « la communication numérique, moi, ça me va mieux », ce qu'on entend, c'est si des personnes autistes se retrouvent dans la communication numérique, ça veut dire que les mécanismes de la communication numérique sont pathologiques, sont réducteurs. Alors que dès lors que tu prends en compte les spécificités de l'autisme et la manière de communiquer des personnes autistes, mais que tu ne dis pas que c'est un déficit ou une pathologie, mais simplement une forme différente, là tu peux effectivement commencer à aborder quelles sont les spécificités de la communication numérique vis-à-vis d'une communication en présentiel ou en face-à-face, en quoi ça diffère et pourquoi ça peut mieux correspondre à des personnes autistes.
Bon, ok, je veux bien que le simple fait de dépathologiser, de dire « ce n'est pas une communication réduite, mais une autre communication » soit un premier pas. Mais j'ai besoin que Marion me l'explique vraiment. Et donc, il faut en venir à elle. Parce que quand je l'ai contactée suite à ses tweets, elle m'a parlé d'elle, elle m'a parlé de son autisme. Comme appui à la critique théorique et historique qu'elle vient de faire. Je veux donc qu'elle me raconte ça. Et là, tu dis j'ai autiste.
Oui.
On entame un moment un peu chelou. Ok, donc t'es autiste, c'est-à-dire c'est la meilleure question jamais posée. Non mais ça veut dire quoi? T'as été diagnostiqué,
oui.
Quand
etc. Oui, j'ai été diagnostiqué il y a quelques années. Comme beaucoup de personnes diagnostiquées tardivement à l'âge adulte, j'ai été diagnostiqué à la suite d'un burn-out. Où la fatigue et l'épuisement font que toutes les stratégies de masquage, enfin de la manière dont tu masques d'habitude des comportements qui peuvent sembler un peu étranges, bizarres, ou toute l'énergie que tu mets d'habitude à avoir quand même un petit peu d'habileté sociale, ben ça s'effondre. Là, des choses commencent à réapparaître que tu avais cachées depuis un moment.
Non.
Par exemple, dès qu'il y avait le moindre changement, ça me coupe toute capacité à penser, toute capacité à agir. Par exemple, j'ai des grosses sensibilités auditives. Quand je suis fatiguée, j'ai mal sur toute la peau dès qu'il y a un bruit vraiment fort. Et ça peut aller jusqu'à le meltdown ou ce qu'on appelle l'effondrement autistique où là, je peux plus parler, je peux plus bouger, je me retrouve dans un coin à me balancer et il faut que j'attende que ça reboote avant de pouvoir continuer, quoi.
La question que je me pose est assez simple. Marion a eu une vie numérique intense dans sa jeunesse, ça je le sais, et elle va me le raconter ensuite. Mais une fois qu'elle a été diagnostiquée autiste, est-ce qu'elle a relu différemment cette vie numérique ?
C'est grâce à Internet, c'est grâce aux technologies numériques que j'ai construit ma vie, que j'ai construit mon travail, que j'ai construit mes amitiés, que j'ai construit mon identité, ma vie sentimentale, mon éducation sexuelle, enfin tout en fait est passé par le numérique. Et à chaque fois, si j'enlève la composante numérique en me disant mais qu'est-ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu Internet, j'ai pas trop envie d'imaginer en fait, parce que ça m'a vraiment permis beaucoup de choses qui pour moi n'étaient pas possible en présentiel.
J'ai hâte que Marion me raconte tout ça. Parce que je suis sûr que c'est en entrant dans le détail que j'arriverai à répondre à cette objection qu'il y a une réduction de la relation dans les réseaux. Que la sociabilité numérique est un ersatz de sociabilité physique. Parce que là, dans ce travail de déconstruction de l'association entre geek et autiste, j'ai l'impression qu'on n'a fait qu'une partie du travail. et il faut faire l'autre. Et il faut la faire en entrant dans le détail de la vie numérique de Marion. Et ben, c'est ce qu'on fera dans le prochain épisode. Merci à Marion Coville, mais le meilleur reste à venir. À la prise de son, c'était Julien Dumont. Au mixage, Benjamin Orgeret. Réalisation, Fanny Beauhuon. Le Code a changé est un podcast proposé par France Inter en partenariat avec Faber Novel.